Bonjour à tous, bienvenue, merci d'être avec nous pour ce nouveau magazine de la moto tous les dimanches de 11h à 12h30 sur Campus Lille 106,6 ou www.campuslille.com. Au sommaire de cette émission, une spéciale salon de la moto avec notre ami Nicolas Poiret. Nico, bonjour.
Bonjour.
Voilà, on s'est rendu donc aux portes de Versailles. Hein. Lundi, c'était lundi. Hein.
C'était lundi. C'était le 30 novembre.
C'était forcément pas un bon jour pour aller à Paris.
Pas un bon jour, non. Tout était bloqué. C'était COP21. Voilà. Il avait bloqué les autoroutes et tout. Mais on a réussi.
COP21 pour l'environnement. Donc on s'est intéressé dans ce salon à la moto électrique. J'ai remarqué que tu portais beaucoup d'intérêt donc à tout ce qui marchait à l'énergie solaire et puis à la batterie, à la pile.
Ouais, c'est ça.
Avec un interview de la marque Zero, marque américaine qui était présente donc qui est encore présente parce que le salon se termine ce soir vers 19h.
Hein. C'est ça. Mmh.
Donc il y a pas mal de nouveautés donc cette année les nouveautés majeures on peut voir chez BM la 19 Scrambler, c'était le custom un peu l'année dernière qui a été transformé en Scrambler.
Il y a deux ans, ils ont sorti la 90, ouais, et là, ils en ont fait une version Scrambler.
Voilà.
C'est la mode.
En fait, ils ont rehaussé un peu le...
Un petit peu, ils ont mis des pneus tétine et puis...
Dépôts un peu sur le côté, un peu surélevé.
Ouais. Mais le gros truc quand même du salon, c'est que toutes les motos qui sont sorties pendant le salon, c'est des nouveaux modèles et ils doivent être Euro 4.
Oui, alors c'est ça.
On voit des motos Euro 4 et Euro 3 côte à côte. Il y a des marques où on voit la différence.
Il faudrait expliquer le truc.
On va expliquer tout ça.
Tant que c'est pas un nouveau modèle, éventuellement, comme on voit chez Harley.
Alors
par exemple,
la réglementation c'est celle-là, c'est que au 1er janvier, tous les nouveaux modèles doivent être Euro 4, mais les anciens ont jusqu'à 2017 pour le devenir. Voilà. Donc les nouveaux modèles qui sont sortis pour le salon, qui ne sont pas encore commercialisés, ils sont Euro 4.
Et on voit que cette fameuse norme Euro 4 transforme nos motos. Hein. Ça les transforme au niveau des échappements.
Ah oui, ça les transforme, c'est certain. On n'a plus le droit au réservoir en fibre, par exemple.
Ça les transforme parce que maintenant on passe moteur à eau.
On est quasiment obligé d'avoir un moteur à eau parce qu'en fait, la façon dont ils font les tests font qu'un moteur à air n'est pas à sa bonne température, donc il pollue davantage.
L'ABS obligatoire.
ABS obligatoire.
Bon, ça, c'est pas la norme Euro 4.
C'est dedans.
Non, je pense que ça concerne que la pollution.
Jusque
la propre traite du moteur.
Jusqu'aux vapeurs du réservoir. Les mises à l'air avec un clapet, c'est de la folie.
Voilà. Ouais. Notre invité, c'est Robert de Godez. Robert, bonjour.
Bonjour à vous.
Tu n'as pas été au salon, tu t'intéresses comme ça dans les magazines.
Dans les magazines, et puis en général, je pense que j'ai plus de 40 ans de moto et de permis, je me suis toujours intéressé à ce qui se fait, ce qui se fait pas.
Est-ce que les tendances 2015 pour les deux ans à venir, est-ce que ça te plaît
Moi ce qui me plaît, c'est qu'on retrouve des machines, t'as du haut de gamme à 20 000 euros pour pas monsieur tout le monde. Et puis on refait des petites machines à 4, 5, 6 000 euros.
Parce qu'il n'y a plus beaucoup d'argent.
Mais je pense que ce n'est pas des produits bradés, ni même si il me disait que c'est peut-être du chinois ou quoi que ce soit. Moi, je suis tombé amoureux des MASH, des petites motos, des 400. Ils ont sorti des trails, ils ont sorti des petites routières.
Alors ça, c'est une marque des motos qui
peut être. C'est des monos, donc j'aime
bien. Des monocylindres à des prix low cost.
C'est une marque française, qui avait fait ça. Et donc, mais par contre, avec un cahier des charges français, c'est produit en Chine.
Voilà. Ouais. Mais bon, ils font des trucs sympas. Et puis, c'est pas cher, quoi. C'est abordable pour une majorité. Je pense toujours, même quand j'organise des trucs aux jeunes, quoi. Tout le monde peut pas acheter du jour au lendemain une machine à 17, 18, 8, 20 000 euros.
Il
faut commencer avec des trucs sympas, quoi. Et là, on revient, bien sûr, la MT-07, qui d'ailleurs, j'ai lu dernièrement, elle cartonne et elle a réduit le marché de l'occasion.
C'est ça. C'est-à-dire que le prix de la MT-07 neuve fait que les motos d'occasion deviennent trop chères et du coup, ça a baissé les prix.
Donc, c'est préférable d'acheter un véhicule neuf, en fait, une moto neuve.
Disons que ça vient en concurrence des motos d'occasion. Quand ils arrivent à faire des prix comme ça.
Très bien. Robert, tu nous parleras aussi de 2016, Clastre, tu organises une journée.
Journée
de démonstration.
Bien sûr.
Ce sera le 16 avril.
Voilà, le samedi.
Et puis aussi le rallye des Chivivray.
Si je joue à guichet fermé maintenant.
Ah, les pièces, c'est fini, on ne peut plus s'inscrire.
Non, mais c'est bon.
Et voilà, c'est une année sur l'autre, on ne peut plus s'inscrire.
On est parti la première année à 40 copains, et puis on se retrouve 80, 90, et puis tu te dis, bon, il y a un moment, il faut que ça s'arrête, quoi. Mais voilà, c'est, ça plaît à tout le monde. La formule vient d'être copiée-collée en Normandie, là, au mois de novembre, où on était 70. Hein. Donc, il y a un autre ch'ti normand maintenant là-bas en Normandie.
Ah, vous avez un ch'ti normand maintenant en Normandie, voilà. Ça y est, vous avez fait des
Et puis, c'est, ça, ça prend de l'ampleur parce que ben, l'ambiance hein, de, des routes, le, la découverte et puis le plaisir de rouler par des températures qui ne sont pas toujours.
Donc, c'est pour des débutants, des
pour tout le monde.
C'est pour s'amuser.
Ouais,
hein,
ouais. Et puis, voilà. C'est pour mettre le pied. Enfin, moi, ça a toujours été le but, c'est pour mettre le pied au rallye moto, à ce que des gars participent à au moins une manche un jour du championnat de France. Chose qui a bien marché avec les ch'tis, parce que je crois qu'on est arrivé à 17 personnes qui sont arrivées sur des manches, et il y en a une dizaine qui ont fait le moto-tour. Et puis, les ch'tis 2016, grosse motivation pour tout le monde, parce qu'il y a le rallye des Ardennes au mois de mai. Qui a lieu ici à 200 km, que je m'occupe un petit peu du tracé et que je file un coup de main, parce que bon, au niveau de la Ligue des Flandres, ça ne les intéresse pas. Donc je suis allé m'expatrier dans les Ardennes. Et puis là, ben, il y aura nos cousins de Belgique, il va y avoir du monde, parce que ça va être très bien. Ça va être tout prêt pour tout le monde. Et puis les Ardennes, il y a du boulot et c'est bien, très intéressant.
J'ai vu que le moto-tour revenait en France.
Oui, donc coup de bluff.
On ne comprend pas parce qu'ils étaient partis en Tunisie.
Oui, mais bon, vu la conjoncture dans ces pays, ils parlent peut-être déjà du Maroc. Peut-être pour aller voir ailleurs, c'est bien. Hein. Je veux dire, c'est exotique, c'est tout ce qu'on veut, il n'y a pas de souci. Mais le problème, c'est qu'ils ne peuvent pas tout gérer. Quoi. Donc voilà, on revient peut-être en France, coup de poker, peut-être. Il y a une ville d'arrivée déjà, Nice. Mototour, oui. Enfin, j'ai un petit peu de doute, mais bon, j'ai déjà des...
Alors, c'est un coup de poker, c'est pourquoi ? C'est pour trouver un sponsor ? Parce que le sponsor, leur,
Les a lâchés. Ouais, le chien joueur les a lâchés, ouais. Donc Dardoc. Ouais. Et j'ai des échos du salon, même si je ne suis pas allé. Bon, il y aura peut-être un départ Normandie, là-bas, du côté de Val-de-Roy. Enfin, bon... C'est lancé, donc
bon, ça, c'est à suivre.
Et il y en a, ils sont déjà inscrits.
D'accord, il y a déjà inscrit. Dis donc, voilà. D'accord. Très bien. Le côté féminin de cette émission, c'est Christine.
Oui, bonjour.
Qui va nous donner déjà des dates pour 2016.
Oui, hein, nous sommes à la dernière page du calendrier 2015, donc on va commencer à passer au calendrier 2016.
Tu nous diras, tiens, regarde, l'Enduropale, c'est quand,
voilà, l'Enduropale, 29, 30 et 31 janvier.
Voilà,
déjà.
Et le salon de Pécancourt, c'est quand?
Salon de Pécancourt, 19 et 20 mars.
Voilà, déjà, dis donc, ça commence bien, disons, l'année 2016. Voilà. Et puis, il y a notre. À la table au moi. Programme musical, c'est notre cher ami Laurent.
Eh bien, bonjour à tous. We'll be right back.
voilà, spécial salon aujourd'hui, salon de la moto, qui s'est déroulé toute la semaine. Voilà, nous on s'est rendu Porte de Versailles.
On a de la chance, on a le droit d'aller à la journée de presse. Oui, parce que la journée presse, c'est sympa, parce qu'il y a moins de monde. C'est presse et professionnel d'ailleurs. Donc il y a les concessionnaires généralement.
Exactement.
Et puis quelques VIP. Et c'est vrai que c'était sympa parce que c'est les conditions idéales pour aller au salon. Sauf que c'était la COP21. Alors c'est vrai qu'on est parti à 8h de Lille et qu'à 9h on devait être à Carvin.
Tu peux faire la grimace, Robert, c'était pas la bonne heure.
Ouais, à 9h on était à Carvin. On a fini par réussir à prendre l'autoroute. Ouais. Et au péage, c'était le gros bouchon. Et en fait, il n'y avait que deux voies d'ouverte et on se retrouvait avec les flics qui filtraient et qui mettaient les camions de côté. Et après, on a fait des kilomètres et des kilomètres d'autoroute sur une seule voie avec des cônes qui limitaient l'autoroute à une seule voie.
Il n'y avait plus personne sur l'autoroute.
Il n'y avait personne sur l'autoroute.
On était seuls. Voilà. Ça faisait peur d'ailleurs.
Alors on a écouté la radio autoroute. Ils ont dit l'autoroute est coupée, ils envoient tout le monde sur Amiens. Mais nous, on n'allait pas sur Amiens. Donc, on a réussi à sortir. On a dit, il faut sortir. On est sorti. On a longé l'autoroute par la route nationale, la bonne route nationale. Alors. Et on a repris l'autoroute à Roye. Et là, pareil, jusqu'à Paris, Royal. Pas un chien. On avait l'autoroute pour nous tous.
Un vrai film de science-fiction.
Incroyable, incroyable.
Ça fait peur de rouler tout seul sur l'autoroute.
Seulement, on savait qu'arriver au niveau de... La région parisienne, ça allait recouper sérieusement là, dans les deux sens. Donc on a pris, on a fait une grande première, on a pris le RER avec toute la bande, là, c'était pas triste. Hein. Et on s'est retrouvé donc à traverser tout Paris pour arriver finalement à... En étant parti à 8h, on est arrivé à Mich à 1h30.
Oh, il était bien
1h30.
Donc après, voilà.
Un beau raid. Ouais, voilà. Mais on y était.
Donc il y a encore une aventure en France.
Voilà. Donc on va faire un petit peu le point de tout ce qu'on a vu là-bas, puisque c'est quand même ça le but. On a vu le stand Honda. Alors moi, ce qui m'a étonné sur le stand Honda, la première chose que j'ai vue, c'était les gars qui a stické les motos en permanence. C'était tous des blacks, et ils a stické avec un chiffon blanc chaque moto. Ça veut faire luxe, mais j'ai trouvé que ça faisait un petit peu communaliste. Ça m'a gêné. J'ai trouvé ça un peu spécial. Et c'est vrai que sur y a une moto qui éclate les yeux en arrivant sur le stand Honda, c'est la Honda RC213 VS. Ça te dit quelque chose, Mich ?
Ah oui, bah ça c'est la, oui, c'est la moto de Marc Marquez.
Voilà, exactement. Ouais. Et ils ont fait la moto de Marc Marquez sur route.
Pas cher.
188 000 euros. 188 000 euros, la version de base. Si tu veux la version racing, donc qui va bien. Avec les pots qui vont, tout le truc qui va, la puce qui va bien, il faut rajouter 13 000 euros. Donc on arrive à 200 000 euros pour une moto qui est assemblée à la main, qui est produite à 200 exemplaires, soi-disant. C'est un 1000 V4, hein, le même moteur que, en fait, vraiment dérivé. Ils ont enlevé le rappel des soupapes pneumatiques, parce que ça coûte trop cher, mais autrement, c'est le même moteur. 215 chevaux, 170 kg à sec. Et là, je me suis dit, finalement, La Desmo, c'est d'ici. Elle était pas chère.
Non.
Elle était à 65 000, ouais.
65 000, les premières.
Donc, en fait, on avait trois pour avoir une... Elle était pas chère. Et c'était le même concept. C'était même quasiment la même... Hein, c'était la même chose.
Ouais, mais on dit à Robert, si jamais à Clastre, tu les prends, les RC.
Ah bah oui, on les prend. Pourront peut-être passer la troisième, mais bon...
Le 16 avril à Clastres.
Ouais. Donc c'est vrai que bon, ça vaut le coup d'œil. On n'est pas là d'en voir une. Hein. Et puis il y avait effectivement, il y a un nouveau trail. C'est la grosse communication là-dessus sur le stand Honda. C'est le retour de.
Alors, c'est le retour. C'est le retour, oui.
C'est le retour, mais.
Vous la connaissez, Robert.
Alors elle ressemble un petit peu. Elle a le même nom, mais c'est plus du tout la même moto. Hein, plus du tout. Le moteur, c'est plus un V-twin, c'est un bicylindre en ligne. C'est un 1000, 14 chevaux, 208 kg à sec et capable de tout terrain. Alors il y a plusieurs versions. C'est le gros truc de Honda maintenant, ils font une version DCT. DCT, c'est le double embrayage.
Alors ça va falloir expliquer aussi, parce qu'on a vu alors, plein d'abréviations comme ça. De,
ah oui, c'est sûr, ils aiment bien ça.
Ils aiment bien. Alors, ouais. Chez Ducati, chez le RE, c'est le pire. Il y a au moins 5 ou 6 abréviations, on ne sait pas ce que c'est.
Ah, les tourniquets partout.
Alors, oui, les tourniquets partout. Ouais. Donc, en plus, bon, c'est en anglais, il faut traduire, donc il faut déjà trouver ce que ça veut dire.
Oui, donc en fait, là, le double embrayage, c'est un système qui fait que ça. Il y a un embrayage derrière l'embrayage, en gros. Et donc, ça fait que ça adoucit, il n'y a plus d'à-coups, la chaîne dure plus longtemps, la motricité est meilleure. Et puis, ils ont associé ça à 3 modes pour changer de vitesse. Donc, il y a les vitesses traditionnelles. Au pied, il y a le shift au guidon ou entièrement automatique, et on peut se passer du levier d'embrayage pour changer les vitesses. Il est là, mais on peut s'en passer. Donc pour un trail, faut voir. Mais
est-ce que vraiment c'est nécessaire quand tu fais de l'enduro de se passer de l'embrayage ou...
On aime bien avoir la main quand même, c'est ce qu'on fait. Hein, mais bon, ça peut être sympa aussi, faut voir, faut essayer, je sais pas. Je vois pas ce que ça peut apporter.
On va passer notre professionnel de l'enduro, peut-être.
Non, pas professionnel, non, mais amateur éclairé. Mais c'est vrai que je pense que c'est la majorité des trails maintenant, c'est... Bah, ces routiers, ils ont essayé de faire une machine qui sera peut-être plus polyvalente pour aller se balader sur les pistes du Maroc ou d'ailleurs, quoi, si tu veux. Mais il y a des belles vidéos à voir avec cette moto, dont une avec Marquez qui est pas piqué des verres.
Impressionnant. Hein.
Avec un des pilotes du Dakar, là, ils ont mis du gros gaz. Et une autre dernière, j'ai vu cette semaine avec un gars aussi qui se balade au Maroc avec, bon, il parle de produits, moi, nous on parle de moto évidemment. Et ça a l'air d'être marrant, ça a l'air d'être impressionnant, ça a l'air de bien tenir la piste. Je pense que le poids est assez contenu, on va dire, entre parenthèses. Bon, on arrive à 200 et quelques kilos.
Oui, 210 kilos.
Ça fait lourd quand même.
Ça fait lourd pour un tout-terrain.
Oui, mais... ça fait 40 kilos de moins qu'un 1200 GS. Je ne vais pas dire que j'aime pas les BMW, c'est des crapahuteurs aussi devant l'éternel, mais... Bon, 40 kilos, quand tu dois les relever,
la moto qu'on peut mettre en face comme concurrente, c'est la 1090 KTM.
Oui.
C'est à peu près le même créneau.
Qui est aussi
un sacré engin.
Un pouce au crime, oui.
Ouais, ouais.
Voilà, on termine avec les Honda ?
On va terminer avec les Honda, ouais. Donc en fait, il y a quelques autres nouveautés sur le stand, évidemment, hein, mais c'est plus cosmétique qu'autre chose. À chaque fois, on rajoute un petit peu par-ci, par-là. La gamme tout-terrain évolue également. On améliore ce qui existe, quoi.
Yeah.
Voilà, spécial salon aujourd'hui dans le magazine de la moto. On va partir sur le stand de Yamaha, Nico.
Voilà, les concurrents, hein, direct. Donc, Yamaha, ils ont été très dynamiques ces derniers temps, puisqu'ils ont lancé une gamme MT qui a le vent en poupe, hein, puisque c'est les meilleures ventes en France de moto. La MT-07, donc c'est un 700 cm3 roadster. Et puis la MT-09, qui est un 3 cylindres 900 cm3, qui marche sur les plates-bandes de Triumph, 3 cylindres, mais qui marche très très bien aussi. Et qui est décliné, hein, ils en font des séries. Et alors là, justement, on présentait la MT-10. Alors, c'est la MT-10, c'est un 4 cylindres, c'est le moteur de la R1.
Ouais.
Avec une esthétique brute, hein, brute de coffre, c'est spécial. Hein, c'est vrai que esthétiquement, ces trucs-là, c'est agressif. Hein, voilà. Et donc, mais par contre, chez Yam, il y avait du néo-rétro sympa. Hein, on a ressorti les couleurs de Kenny Roberts, magnifique. Hein, ça nous replonge dans les années 70. Nous, ça nous parle. Je ne sais pas si les jeunes, ça leur parle, mais nous, ça nous fait quelque chose. Et c'est vrai que c'est des couleurs qui nous ont fait vibrer. Et donc, ils ont sorti la 400 SR avec ces couleurs-là. Je me suis toujours demandé pourquoi la 400, pas la 500, hein, puisqu'elle existe. Pourquoi on a le droit qu'à une 400. Et puis, ils tentent de faire du vieux avec du neuf, avec la 750. Alors, c'est des malins, ils l'ont appelé XSR. Donc, pour faire 650 XS, vous vous souvenez, hein, donc c'était les copies d'anglaises. Donc là, comme c'est un bicylindre, ils l'ont appelé 750 XSR, donc c'est dérivé de la MT-07. On sent bien l'idée de bousculer la Ducati Scrambler, mais c'est un moteur à eau, il y a quand même pas mal d'appendices en plastique et c'est pas hyper flatteur. Ils ont fait la même chose avec la 900 à 3 cylindres et je trouve que c'est bien mieux réussi. Elle est là sous tes yeux, la Mich, la XSR 900.
Donc il faut rappeler.
Elle est plus sympa.
Pour les jeunes motards, les couleurs de Kenny Roberts, c'est le réservoir jaune avec forcément le damier noir.
Voilà, c'était les couleurs de
donc
Kenny Roberts.
Ça date des années 80. Hein.
Ouais. Les Yamaha États-Unis, les couleurs de Kenny Roberts, ouais. Et donc ils déclinent en fait les moteurs existants sur d'autres architectures avec d'autres looks en surfant sur la mode néo-rétro et c'est pas mal fait. Et autrement dans les grosses, il y avait aussi la 1300 FJR, donc la grande routière de Yamaha qui hérite d'une boîte 6 et qui fait baisser la consommation et pas mal de petites améliorations aussi. Donc en fait, il la peaufine tous les ans celle-là. Hein. Et puis, sur le stand, on a découvert quand même un monstre, hein, sur le stand. Parce qu'il y avait la M... Alors déjà le nom. MWT-9.
Oui.
Ouais, voilà. Et donc, c'est une monstruosité de la nature.
Les touches 6. Hein.
En fait, c'est une moto à trois... Enfin, une moto, entre guillemets, à trois roues.
Alors,
qui reprend le 3 cylindres de l'MT-09.
C'est pour les concurrencer, les Peugeot, tout ça, là.
Alors, disons que c'est quand même un 900 3 cylindres qui dégomme, hein, le 900 3 cylindres de l'MT-09. C'est pas rien. Et en fait, c'est pour le rendre conduisible avec le permis voiture. Parce que en France, un véhicule à trois roues est assimilé à un tricycle à moteur, et un tricycle à moteur, il peut être conduit avec le permis voiture. Donc c'est juste ça. Mais le résultat, c'est une horreur totale. J'espère qu'on verra jamais ça sur les routes et qu'ils vont faire évoluer la réglementation. Pour une fois, j'espère qu'ils vont faire évoluer la réglementation.
Pour se faufiler sur le
périphérique. Ils ont fait une fourche mais de la mort. Avec un double.
Il y avait une vidéo. Ça penche quand même. Ça penche quand même. C'est pas statique. Ça penche. Il y avait une vidéo. Mais alors c'est un truc de fou.
Pour se faufiler sur le périphérique, ça doit pas être.
Non. Entre deux camions, je crois qu'ils vont en faire une moto.
Là,
ouais. Et puis c'est vrai qu'il y avait sur le stand, et bon, on voit que l'esprit revival, l'esprit ancien, toutes les marques surfent un petit peu sur leur passé, hein. On sent que c'est quelque chose d'important en ce moment. Et ils avaient ressorti la première Yamaha, la toute première Yamaha, la YA1, c'était la Red Baron. Et en fait, c'est la copie d'une 125 DKW. Et c'est vrai qu'après la guerre, c'était une période de disette, il fallait construire des véhicules faciles à produire et bon marché. Et on a pillé allègrement les plans de la meilleure 125 d'avant-guerre. C'était une 125 de temps, c'était DKW qui l'avait fait. Comme ils avaient perdu la guerre, on a pillé tout, on les a pillés. Et Charley, c'est la Hummer, 125 Hummer, Charley. Chez Bessel,
ça 120, fait le tour.
125 Bantam. Chez les Russes, ben, la Mosca, qui doit exister encore maintenant d'ailleurs. Et puis, ça devient, c'est devenu la Minsk en fait. Et puis en Pologne, c'était la WSK, et Morini aussi s'est servi. Et donc voilà, ben, et MZ ben, en fait, a poursuivi la production de cette moto dans l'usine qui était devenue à l'Est. Mais donc, ben, il y avait cette moto, donc c'est une moto qui parle parce que tout le monde l'a produit. Et c'était la toute première Yamaha. Donc pour tout ça, pour dire qu'on sent que la, dans tous les stands, que l'histoire de la marque, on s'en sert pour faire vivre la légende.
Voilà. Ouais. Elle est équipée d'une selle blanche en plastique, mais
c'est
à l'origine, c'était pas.
Ça devait pas être ça. Devait pas être ça non.
C'était
non.
pas blanc et c'était non. pas en plastique.
Non.
Voilà. Bon, c'est bon, c'est pour terminer pour Yamaha.
Oui, alors après, je sais pas, on pourra parler de Triumph, on pourra
peut-être parler de Ducati, parce qu'on va essayer
Ducati,
d'avoir
Bruno
Chrétien au téléphone, pour savoir si on pense un peu de ces modèles qui sont exposés sur le.
Mais j'ai juste une petite remarque par rapport.
Le salon 2015.
Petite remarque, excuse-moi, la Miche, par rapport à toute cette mode de machines anciennes, Revival, Strambler et tout ça, c'est que ça amène beaucoup de monde à refaire et à repenser la moto. On va pas parler marché, on va pas parler. Mais bon, ce qu'on peut entendre à droite et à gauche, quand tu peux sortir un petit peu du contexte de la moto, c'est qu'il y a plein de gens qui se réintéressent à la moto par rapport à ces machines plus sages, parce que bon, on est toujours dans une période de répression, malgré tout ce qu'on peut penser, et ça va pas finir. Et donc, ces machines plus sages qui sont plus à la balade et puis. À la redécouverte de la moto, et on va attirer plein de monde qui n'était pas spécialement motard sur ces modèles.
Il y a le look, il y a l'esprit, et puis il y a effectivement une moto bonne à tout faire, comme on avait dans le temps finalement, hein, qui est moins spécialisée, qui est plus facile à conduire et qui est sympa à rouler sur des petites routes.
Ouais. On voit que les constructeurs tapent dans tous les domaines, hein, dans le scrambler, le.
C'est vrai que ça élargit de
l'enduro,
tous les côtés. On décline tout ce qui est possible. Ouais. On fait des trails avec des sportives, c'est vrai qu'on essaye de tout, tous les segments sont utilisés.
Alors on va passer à un morceau de musique et puis après on parlera de Ducati et puis de cette Ducati, alors je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est la ex-Diavel qui a été élue à l'ECMA, donc la plus belle moto de l'année.
Oui, enfin la plus belle moto nouveauté.
Nouveauté, la nouveauté, la nouveauté, voilà très bien.
spécial Salon de la Moto. Aujourd'hui, dans le magazine de la Moto, on part sur le stand Ducati, Nicolas.
Oui, alors il y avait deux stands Ducati en fait. Il y avait un stand rien que pour les scramblers, parce que quand même, ça fait booster les ventes de Ducati. Hein. Alors ils ont le droit à un stand à eux tout seuls. Et puis il y avait le stand des Ducati traditionnels.
Alors je te préviens qu'on a un spécialiste Ducati. Hein, c'est,
ouais, bonjour Bruno.
Bruno Chrétien qui est en ligne. Bruno, bonjour. Je ne sais pas si tu t'es intéressé ou tu as fait une balade cette semaine au salon.
Non, bah j'ai pas été à Paris en fait, mais j'étais la semaine d'avant, j'étais au salon de Milan.
Ah, c'est mieux.
Ah ouais, c'est encore mieux.
C'est
encore mieux.
C'est toujours magnifique quoi.
Il a des adresses en Italie. Bonjour Bruno.
Ah oui, alors tu peux nous les donner les adresses.
Je vous les donnerai.
Ouais. Alors qu'est-ce qui t'a marqué là-bas, Bruno?
Alors bon, comme toujours, les bols Italie, c'est Ducati, ils sont chez eux, donc c'est toujours un super show et des. Avec tout ce qu'il faut comme belle moto puis belle fille en plus.
Ouais,
c'est vrai. Ça gâche.
Pour moi, la super moto qui sont sortis là-bas, c'est la nouvelle X Javel qu'ils appellent.
Oui.
Ouais, on en parlait justement avant là.
Ouais, donc en fait, ils ont fait une grande sœur à la Javel.
Ouais, voilà, ouais, un peu plus un petit peu plus customisé en fait.
Voilà, c'est ça.
Un peu plus cruiser.
La position est plus cruiser, ouais, les pieds plus en avant.
Ça va jouer sur le terrain de la VMAX, hein.
Voilà, sur ouais. Là, ils ont sorti un moteur.
Travaillé pour le couple, un 1262, là, un gros truc, hein.
Énorme. Ouais. C'est leur meilleur moteur qu'ils ont jamais fait à l'heure actuelle, ça.
Ouais. Et il fait moins de chevaux que l'ancienne Javel, hein.
Ouais, voilà, il fait moins de chevaux roux, mais ils ont
un coup de fou.
Ouais. Un truc.
À boucher des pneus arrière.
Ouais, voilà, ça va être quelque chose. Ouais. Bon, encore la gueule est encore plus.
Agressive, c'est beau.
Ouais, encore plus agressif, ça c'est tout en noir et tout.
Moi, je reste quand même admirateur parce que c'est vraiment bien intégré. On voit que les courbes, il n'y a pas une courbe qui dénote. Tout est bien arrondi. C'est bien dans le style. Hein, ils bossent bien, quand même, les gars.
Et puis, il y a cette selle qui est suspendue dans le vide, là. Ça donne un style, hein, c'est marrant.
Ouais, par contre, pour la passagère, ça ne va pas le faire, hein.
Non, ils ont fait ça. C'est vraiment la moto qui. Bon, on l'attendait parce qu'ils avaient prévu. On avait pas vu pas mal de tout ce qui était teaser et dit sur internet. Donc, bon. On savait que ça leur ressemblait à ça, mais bon, c'est vraiment.
C'est vrai qu'ils font du marketing maintenant. Hein. Trois mois avant, ils nous mettent des petits bouts, on voit rien du tout. Noir sur du noir. On essaie de voir. Deviner la moto. Et là, on l'a en vrai.
À Milan, il y avait Bélis qui était là-bas sur place pour présenter le nouveau petit scrambler aussi.
Ouais, le 62, là.
Ouais. Hein,
tu crois que ça va marcher ça? Parce que c'est une 400. C'est vrai que dans le temps, il y avait une 400 SS qui était vendue au Japon.
Il y a eu des 400. Hein, le même s'était vendu en France à 400, mais très petite.
Peut-être ces entités, ouais.
Ça approche trop du. En fait, c'est trop près du 800, en fait.
Ben, il y a que 1000 euros d'écart et on perd la fourche inversée, on perd le plaquage en alu du réservoir.
Ils l'ont fait un peu cheap.
Il y a 1300 euros de différence entre le 800 et le.
C'est un peu léger, hein. Ouais,
Moto de chez 400. Ça s'adresse plus
aux filles.
Aux filles ou aux marchés dans les villes, les gros centres-villes urbains, bon, des autres pays peut-être.
Ouais, ou des pays où on a pu le voir.
Alors, il faut quand même rappeler que c'est Ducati qui a relancé hein, cette mode du scrambler là, il y a deux, trois ans, je crois.
Ouais, avec succès, hein, tout le monde suit. Hein.
C'est une marque, c'est pour ça qu'ils aient des stands complètement différents, parce que c'est vraiment une marque qui veulent créer à part, en fait.
C'est ça, exactement. Ouais.
Ducati est maintenant la marque scrambler.
Ouais, c'est ça. Ouais.
C'est. Certainement un jour pour certainement faire des points de vente scrambler un peu partout dans les centres-villes.
Ah d'accord, ah oui, carrément. Ouais. Ouais.
Mmh. Ça ne vendra que les scramblers dedans avec accessoires, vêtements.
C'est sûr qu'il y a du marketing derrière, là on le sent.
Un gros marketing derrière. Ouais. Et sur la Javel, ils ont la première fois pour Ducati, ils ont mis une courroie de transmission secondaire. Quoi.
Oui, c'est vrai. Bon, la chaîne. Ouais.
On ne va même plus se graisser les mains
et
la roue arrière.
Ouais.
Tout se barre en couille, on peut plus salir les mains maintenant.
C'est en avant qu'ils ont fait. Bon, après, bon, faut aimer ou pas, mais bon, c'est.
Et est-ce que tu as vu la petite sœur de la Panigale, la 959?
Ouais, 959, ouais. Ça, c'est vraiment là aussi. Mais bon, en France, le marché est devenu un peu bizarre. Dans le superbike, c'est devenu.
Voilà. Alors, il y a une petite polémique 959, là, parce que, apparemment, avec le pot d'origine de la grande sœur, là, c'est bien intégré. Tandis que là, il y a deux échappements sur le côté.
Ouais, les deux échappements sur le côté. Ça, c'est vraiment pour la norme européenne, la nouvelle norme, en fait.
Euro 4.
Et alors, je suis allé sur Internet et j'ai vu qu'en fait, aux USA.
Allez, normal,
ils vont avoir. Oui, voilà.
Ils vont avoir le bon silencieux normal. mal. Ouais.
Alors moi, je comprends pas, parce qu'il y avait comme la COP21, de moment, on devrait tous respecter l'environnement. Hein. Alors comment ça se fait qu'en aux USA, ils vont avoir le pot bien intégré en dessous du moteur qu'on voit pas, et en Europe, on se chope les deux gros tromblons sur le côté.
Ah ouais, bah là, on voit qu'en fait, l'Europe est en avance maintenant au niveau normes anti-pollution par rapport aux États-Unis.
Alors, on est en avance ou alors on se fait avoir.
Il n'y a pas que la pollution, il y a le bruit aussi. Hein.
Ah, c'est ça bruit, aussi. Bon, ouais,
parce que Ducati, on l'entend quand même.
Ouais.
Même en pot d'origine, une Panigale, on l'entend bien.
Ah oui. Non, là, c'est un peu. Australie, pareil, il reste avec l'échappement en dessous. Japon, il reste avec l'échappement en dessous.
Ouais.
C'est vraiment. Ça, c'est vraiment pour l'Europe. Après, bon, les performances moteurs, on ne sait pas trop, parce que...
Il y a l'essai dans Motojournal cette semaine. Ils disent que sur circuit, c'est plus facile à rouler, donc on va plus vite pour un pilote lambda. Mais ils disent aussi qu'il y a beaucoup moins de sensations, hein, c'est sûr. Pourtant, il y a encore 157 chevaux là-dedans. Hein.
C'est quand même
dingue.
Voilà. Mais bon, c'est sûr que les sensations, maintenant, ils ont tendance à lisser par le... disons, lisser par le bas pour que ça soit n'importe quel pilote lambda qui puisse rouler qu'une...
C'est ça, hein, ça va dans l'esprit de toutes les assistances au pilotage et tout ça, où il faut un moteur souple pour que ça soit facile et que ça soit finalement plus performant en chrono. Hein.
Ils ont sorti la Multistrada 1200 Enduro, là, qui elle, paraît bourrée d'assistance, quoi.
Exactement, et puis roue à rayon, tout ça, pour essayer d'attaquer la GS. Hein.
Justement, on en parle. Bruno, on en parlait, hein, il y a les abréviations là, de tous les systèmes de freinage. Ça devient difficile à comprendre. L'anti-wheeling, l'anti-patinage,
contrôle de traction, ils appellent.
Contrôle de traction aussi, oui.
Le frein moteur est contrôlé en fait.
Ah, le frein moteur est contrôlé aussi, ça devient dingue.
Contrôle du frein moteur dans les chemins pour empêcher la roue arrière de se bloquer de rétrogradage.
Et il y a plusieurs modes à chaque fois en plus.
C'est
de la folie. Il faut le bac avec mention pour régler sa moto.
Bruno, il y a Robert de Gonesse qui est avec nous. Je ne sais pas si il t'a dit bonjour.
C'est un gars que j'ai connu il y a longtemps.
Il n'y a pas 45 ans, non ?
Ça devait être une course de Côte de Lic en 80.
Alic, la Côte. Ça fait Alic, oui, Côte de Côte. Oui. Monsieur Côte Alic, oui.
Monsieur Bruno roulait avec, on dira pas quoi, mais bon, un deux temps, et je devais être avec mon 500 XT, et puis voilà.
Et tu l'as enfumé la Côte de Lic. Non.
Ouais, il y avait un grand guidon
étriché
là-bas, c'est sûr.
D'accord. Très bien. Il voulait poser la question, est-ce que tu as vu l'Hyper Strada 939 là ?
Oui. Bon, ça, c'est pas. C'est particulier. Déjà, c'est une très petite vente en France et une très petite vente dans le monde. Hein. C'est cher. Et en fait, le problème de ces motos, c'est très très haut comme moto.
Ouais. Donc ça tape un petit peu dans l'enduro, un peu, non ?
Supermoteur.
Hein.
Par contre, c'est trop typé.
C'est vraiment. Ils s'entêtent encore dans ce genre de truc, mais alors que. Bon, c'est pas.
Ouais, il n'y a pas beaucoup de débouchés.
Il y a très très peu de débouchés. Hein.
Ouais. Et d'ailleurs, à part les scramblers, tous les moteurs maintenant, c'est Katsupa Pao. Hein.
Ouais.
Il n'y a plus rien, parce que j'ai vu la monster la plus accessible, c'est la 821 Dark. Là. Ils ont fait un modèle Dark, comme ils font régulièrement pour avoir un modèle un peu moins cher. Et 10 000 euros.
C'est quand même. Et puis c'est un moteur à eau, donc un moteur, bon, quand même.
Ah, il envoie 112 chevaux.
Il n'y a plus de petits tourneurs, de petits monsters en fait.
C'est ça.
Il faut vraiment se rabattre après sur le scrambler.
Exactement.
Mais bon, à mon avis, un jour ils ressortiront quand même. Ils ont un problématique à l'usine pour fabriquer les motos, ils n'ont pas de place.
Il y a trop de chaînes de montage, il y a trop de modèles différents.
Ils sont obligés de couper dans des. Ils nous ont promis normalement le renouveau d'un SS un jour, et on l'attendra toujours parce que bon, c'est pareil, il faut voir. Peut-être qu'avec les nouvelles usines qu'ils ont créées un peu à droite à gauche, que ça s'améliorera, mais bon, c'est compliqué chez eux.
Qu'est-ce que tu penses, Bruno, un petit peu des tendances actuelles, quand on regarde un petit peu les nouveautés 2015 dans toutes les marques, hein.
Il n'y a pas de truc qui me. Bon, après, c'est. Quand on est dans le milieu de la moto depuis longtemps, on n'arrive plus trop à être choqué par une nouveauté, quoi.
Non, mais t'as raison, c'est vrai. On est un peu blasé, puis en fait, on a eu tout ce qu'on voulait.
Une moto, il y a des années, comme la Corvette française, elle est sortie par exemple.
C'était la révolution, c'est vrai.
Ou même, c'est bête, mais une VMAX, quand elle est sortie, c'est pareil, c'est des trucs qui.
Qui ont marqué une époque.
Mais non, il n'y a pas de.
C'est un petit talon hein, quand même. Il ouais. n'y a pas de choses qui marquent vraiment et on se dit ça va rester.
À Milan, il y avait la. Je ne sais pas si à Paris elle était, il y avait la Honda.
Oui, on l'a vu, on en a parlé. On en a parlé, ouais, la moto GP Replica.
Ouais, voilà, donc ouais. Ça, c'est un peu comme la Ducati qu'ils avaient fait, la Desmo Sedici.
Ouais, sauf qu'elle est trois fois plus chère, t'as vu ?
Ouais, voilà, trois fois plus chère.
Hein, ouais. je me suis dit, on aurait pu avoir trois, finalement, la Ducati était pas chère.
Non, parce que Robert, il savait pas qu'il était exposé, qu'on pouvait l'acheter, donc il s'est dit, tiens, j'irais bien faire un petit chèque là-bas, chez l'RCV de Marquez. Pour l'essayer sur les circuits Clastre, tu sais, le 16 avril, il fait sa petite journée, la démonstration. Donc,
ouais.
Voilà. Non, mais la Desmo était à 55 000, Bruno.
55 000 au départ et 60 000 la deuxième série qu'ils ont fabriquée.
Et t'en avais vendu combien ?
4.
Quand même. C'est pas rien.
Hein. Bon, et vache.
Bah, et... Donc, à mon avis, ils vont quand même en vendre, mais bon, c'est quand même, ça devient restreint. Quoi. C'est...
Oui.
Mais de toute façon, moi, je vais dire un truc. Moi, j'irai pas acheter la moto de Marquez, franchement. Avec tout ce qui s'est passé, certainement pas.
En parlant de Ducati, en parlant de Ducati, il y a Stoner qui revient.
Ouais.
Oui, ça, c'est...
En pilote d'essai.
En pilote d'essai, hein.
Pilote d'essai,
mais...
Il prend quelques petits...
Bon, on verra bien.
Il est chatouillé.
C'est bon pour le...
Mais bon, l'année de la moto pour 2016... À mon avis, au niveau des ventes, au niveau des stats et tout, ça va quand même pas être une top année, quoi.
Non.
Ça va être un peu comme 2015, c'est vraiment...
Un petit peu en dessous de 2014, ça continue à descendre. Hein. Ouais.
La moto est en chute depuis des années, depuis 5-6 ans, mais c'est... Allez, bon, en plus, ils veulent nous prendre des nouvelles lois avec contrôle technique, des gants obligatoires homologués, un tas de trucs qu'ils veulent ajouter... Il y a tellement de contraintes sur la moto que patent, les gens, ils voient plus la liberté là-dedans, quoi.
Ouais, c'est vrai. Mmh.
Faites du circuit.
Très bien, Bruno. Ben écoute, je m'excuse de t'avoir réveillé aussitôt, comme un dimanche matin.
Sous le soleil, on est à l'ombre.
Voilà. Et puis, merci d'avoir bien voulu répondre à nos questions. Voilà.
Ok, pas de soucis.
Et puis, à bientôt.
Ok,
bon dimanche.
Bon dimanche, Bruno.
Salut, Bruno.
You have the right.
Suzukawa et puis on...
Voilà, Suzukawa, voilà, voilà. Sur le stand, là-bas.
Voilà, exactement.
Au salon, donc, aujourd'hui.
Voilà, donc bah, sur Suzuki, c'est les 30 ans qui vient coup, c'est les 30 ans de la GSX-R.
Ah oui.
Et il y avait une nouvelle GSX-R sur le stand Suzuki. Alors, ils avaient un peu de retard avec l'ancienne, donc là, ils ont voulu faire fort et ils ont fait fort au niveau technique, on va dire, hein. Donc c'est distribution variable, le gros truc. Hein. Distribution variable, contrôle des soupapes par linguet. Donc ils ont quand même fait un truc technologiquement différent. Et puis bien sûr il y a toute la panoplie d'aide électronique au pilotage, hein, shifter, accélérateur électronique, ABS contrôlé électroniquement, 10 modes de traction contrôle, tout le tintouin. Quoi. Comme maintenant chaque sportif a une assistance au pilotage. Bientôt on tournera la panne à fond et la moto fera le reste, hein, je pense. Donc voilà, et sinon il y avait une drôle de nouveauté aussi sur le stand Suzuki. Vous vous souvenez, la 650 SV, ça avait bien marché ce truc là il l'avait remplacé par la 650 Gladius. Et ben la remplaçante de la 650 Gladius, c'est la 650 SV. Donc retour vers le futur, je sais pas. Ils ont remplacé un modèle par un autre et qui est remplacé par le modèle qui était là avant. Donc dans l'échange, elle a gagné un vrai 4 tri. Donc voilà pour Suzuki. Chez Kawa, il y avait la fameuse Ninja H2 dont on rabat les oreilles là, mais donc. Ben, ça a l'esthétique d'un avion furtif. Il n'y a rien à voir avec la H2. C'est juste le nom, bof. Ils avaient fait aussi une nouvelle Ninja ZXR. C'est quand même la sportive qui est championne du monde de superbike mondial avec Jonathan Rea. Il y a un tout nouveau modèle. Elle aussi, avec une dégaine un peu avion furtif. C'est leur trip. Hein. Et puis, ils ont revu aussi la ZZ1400. Donc, c'est la routière sportive. Enfin, routière sportive, sportive parce que 200 chevaux et routière parce que 270 kg. Et enfin, signe révélateur, Kawasaki, qui la marque qui clamait jamais de scooter chez Kawasaki. Et ben maintenant, il y a deux scooters. Il y a deux scooters dans la gamme. Il y a le J300 et le J125. Et en fait, ben, j'ai gratté un peu pour savoir ce que c'était que ces trucs. Et ils sont fabriqués par Kymco. Et Kymco, les mecs de Kymco m'ont dit qu'ils fabriquaient aussi pour BMW. Les scooters BMW, c'est des Kymco. D'ailleurs, ils avaient un gros stand,
oui,
sur le salon. J'étais étonné.
Ah bah s'ils commencent à construire pour tout le monde, tu sais, ils vont avoir un gros stand.
Donc en fait, ils vendent sous leur marque, mais ils vendent encore plus en rebadgeant des trucs, ouais, qu'ils font pour d'autres. Donc voilà pour les Japonais. Il y avait quand même un stand sur lequel moi j'ai une moto qui m'a fait vibrer quand même. Faut avouer, c'était sur le stand Triumph. Ils ont fait, bon, le nom il fait vibrer, c'est la T120. Mais donc ils ont revu la gamme Bonneville. Alors ils sont obligés Euro 3, donc elles sont passées donc refroidissement liquide, mais ça a été bien fait. On voit pas les durites, ils ont conservé les ailettes, le radiateur est planqué dans le berceau. C'est bien fait, la finition est exceptionnelle. Et puis, ils l'ont fait en 1200 et en 900.
Donc ça a passé en 1200.
Alors, elle existe toujours en 900.
Ouais, elle existe toujours, mais ils vont aussi la passer en 1200.
Voilà, et le 900 est aussi un nouveau modèle,
ouais,
hein, avec refroidissement liquide. Mais j'ai trouvé qu'au niveau finition, c'était vraiment très très bien léché. C'était vachement bien fait.
Dans les détails, effectivement, on retrouve un peu... ça, il faut connaître. Il faut être ancien motard pour connaître ça. Les filtres camembert.
Ouais,
Robert,
voilà,
t'as connu ça, les filtres camembert, sur les BSA, ouais, Triumph, voilà.
Même les injecteurs ont une gueule d'amal.
Petit filtre camembert rond, juste derrière. C'est des faux carbus, hein, c'est une injection. Ils ont fait un peu comme si c'était des carbus. Hein, Et donc, ils jouent sur le détail. Et même dans le phare, hein, il y a le
logo Triumph.
Il y a le logo Triumph.
Non, mais c'est une belle machine. Elle fait vibrer quand même. Je trouve que, bon, faut voir. Hein, un 1200 bicylindre, ça va pas être mauvais non plus, hein, à rouler. Faut voir. Par contre, à chaque fois, j'ai trouvé, mais alors ça, sur toutes les motos, hein, toutes ces motos néo-rétro, là, c'est pas fait pour rouler. Les selles, elles sont minces. Moi, ça, à chaque fois, j'ai trouvé que dans tous les stands, chaque fois, je voyais. La BMW Scrambler, c'est pareil. La selle, elle fait 2 cm d'épaisseur, quoi. Faut arrêter. C'est pas fait pour rouler. C'est des trucs pour mettre dans son salon. Donc ça m'énerve. Ça, parce que c'est une moto,
faut
c'est fait pour rouler.
Alors, il faut te.
Ben non, une moto, c'est fait pour rouler. C'est pas fait pour faire le tour du pâté de maison. C'est fait pour rouler. Donc, voilà.
C'est fait pour vendre des accessoires en gel après.
Oui, c'est ça, exactement.
Voilà.
Ouais, bah oui. Donc voilà, et puis il y avait aussi des motos françaises. Des motos françaises, alors...
Alors ça existe encore.
Ben, ça existe encore, il y a une vraie marque française. Il y a une vraie marque française, c'est une marque de tout terrain, c'est Sherco. Elle a deux usines, une près de Barcelone pour les motos de trial, et une autre près de Nîmes pour les enduros et les supermotards. Ils conçoivent eux-mêmes leurs moteurs 2 temps et 4 temps. Ils ont été le premier constructeur à produire une moto d'enduro à injection, c'est une belle marque. Et ils présentaient également une moto qui est conforme à la nouvelle catégorie, il y a une nouvelle catégorie pour les jeunes, en championnat de France. Ça s'appelle Pré-Moto 3, donc ça se veut une moto 3 mais en moins pointu, hein. Et donc ça va être un châssis prototype avec dedans un moteur de 50 tout terrain, 4 temps. Donc des pièces faciles à trouver, pas trop chères. Et donc ils vont faire une vraie catégorie qui sera très, très performante pour essayer de faire un vivier de nouveaux pilotes. Et donc Sherco présentait une machine qui était très, 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 très réussie. Et puis autrement comme moto française, normalement française, il y a Avinton, hein, c'est ex-Wacan. Mais bon, ça se dit français, mais le prix et le moteur S1S sont américains. Et puis après, il y avait la marque française, ben c'est ce dont tu parlais tout à l'heure, MASH, hein, Robert. Et
ouais, le cahier des charges était établi à Bonn.
Hein. Oui, voilà.
Là, le moteur, c'est pas non plus un moteur français.
Hein. Non, alors c'est une marque française. Enfin, la marque est française. Ouais. Les motos sont fabriquées en Chine, selon un cahier des charges français. Mais bon, ils font des efforts.
C'est Uno et c'est une réplique du 400 XR de Honda.
Oui, voilà, c'est ça.
Amélioré.
Voilà.
Fiabilisé peut-être, mais bon, ça reste un petit mono sympa. C'est très bien que j'adore les monos. Et je trouve que la version trail, la version café racer, il y a du loup, c'est fait. Voilà, c'est. J'avais des charges, il est établi à Bonn, hein, à Sima. Et je trouve qu'ils ont fait des belles choses. Et à des prix.
Et puis c'est pas cher.
Et c'est pas cher. Voilà. Ouais, ouais. Il y a un scrambler qui est fait avec les couleurs de Husqvarna dans le temps, rouge avec les flancs chromés sur le réservoir. Pas mal. Et puis ils ont aussi fait une moto d'aventure, toujours avec ce 400 mono.
Ah ouais.
Donc ben moi j'ai vu dans ça j'ai vu la 250 MZ en plus moderne quoi. Ah ouais. Hein, la bien. Moto de ah oui, une moto pas chère pour
voyager. C'était ta première moto en fait.
Ouais, moi j'ai roulé
dessus. C'était ta première moto, c'était 2,5 MZ.
Enfin 125 MZ d'abord et 125. après une 250. Ouais. Ouais.
Et c'est bien distribué, hein, même dans la région, je pense à ça, parce que bon, je connais quelques potes qui sont concessionnaires sur la région, et c'est quand même distribué. Je veux dire, ils n'ont pas un distributeur par département, je crois qu'au niveau du Nord, il doit en avoir quatre. C'est quand même significatif, c'est parce que bon, un, ils en vendent, deux, il y a du suivi, donc...
Et si tu fais le parallèle avec en 70 et en 2015 en fait on a acheté 125 MZ pourquoi?
Ouais, pour voyager, pour rouler.
C'était pas cher.
Ouais, c'est pas cher.
Tu touchais une 125 MZ.
T'avais un truc solide et qui roulait et pas cher. Et voilà.
Moi, c'était pour rien.
C'était la moitié des japonaises. Hein. Voilà. Ouais. Et là, c'est un peu le même style, ouais. Donc c'est un petit peu le même esprit pour les jeunes qui ont pas d'argent et qui veulent rouler et faire des trucs. Ouais, c'est sympa. C'est sympa que ça existe. Donc voilà, et puis donc on va rejoindre le salon en direct.
En direct, bientôt, après, ouais. Après le morceau de musique.
D'accord.
Baby, I'm losing sleep.
Voilà, spécial salon aujourd'hui, mais il est vraiment en direct parce qu'on part là-bas, porte de Versailles, donc à Paris, carrément au centre du salon, et nous allons retrouver Luc Cotterelle. Luc, bonjour.
Salut, comment on va ?
Ça va très bien, mais c'est nous, on va te poser la question, est-ce que toi tu vas bien au bout d'une semaine de salon ? On sait que c'est très fatigant les salons.
C'est fatigant, ouais. Puis en plus j'ai attrapé la trêve, donc j'ai une...
Ah bah en plus, mais... ah bah voilà.
Voilà.
Froid, d'abord,
pareil, hein.
Voilà. Il faudrait que tu dises aux auditeurs ce que tu fais là-bas, donc sur le salon.
Eh ben en fait j'ai été gentiment invité sur le stand Touratech pour parler de mon projet de film que j'ai mis sur le site de projet participatif. Donc ils m'ont octroyé une petite surface du stand pour voilà, pour communiquer sur ce projet et éventuellement dédicacer les affiches aux contributeurs qui passent par ici.
Alors, est-ce que les gens sont intéressés ? Est-ce que tu as eu beaucoup de personnes qui sont venues te demander, qui sont curieuses un peu du projet ?
Il y a eu quelques personnes, quelques personnes sont passées, des gens intéressés. Et bon, après, il y a tellement de monde, tellement de passages, les gens ne sont pas forcément attirés par cette partie-là du stand. Il y en a vraiment pour tous les goûts ici. Hein. C'est vraiment la moto avec un M majuscule.
Alors, le projet du film, hein, c'est parce que tu as passé 2 ans et demi en Afrique, hein, du nord au sud, d'est en ouest, ouais. 89 kilomètres. 89 000 kilomètres,
ouais, Luc. 90 000, ouais.
90 000 kilomètres en GS, hein, on sent. Ouais. Donc voilà. Et tu as décidé donc de réaliser un film, hein, parce que tu as fait plein d'images.
Ouais, je suis revenu avec pas mal d'images, je suis revenu avec pas loin de 150 heures de rush et 35 000 photos, et du coup, j'ai trouvé un monteur professionnel pour optimiser tout ça, parce que je suis pas un caméraman averti, donc voilà. Et j'ai créé une bande-annonce que j'ai mis sur un site de projet participatif, là, My Major Company, de façon à pré-vendre le DVD, de façon à financer le montage.
Voilà, et il te faut à peu près 8 000 euros hein, pour pouvoir commencer à faire ce montage.
C'est ça.
Voilà. Est-ce que tu as fait un tour dans le salon un peu, le tour des stands un peu, qu'est-ce que tu pourrais nous en dire ? Enfin, est-ce que tu as remarqué une moto qui te plaît, que tu aimerais acheter ?
Ouais, je suis tombé amoureux d'une Vincent, là, d'une aiguille HRD.
Des goûts simples.
Je suis resté sur le
vendre pendant un petit moment.
C'est ce qui me reste en tête maintenant. Il y a des super machines.
Non, et lui, c'est pas un modèle 2015, ça. Hein.
Non, tu le sais.
Ça date de je sais pas quelle année, Robert, avec Lee Vincent, tu sais pas toi. Hein,
bah déjà, c'était une Vincent qui était refaite en aiguille.
Bah, enfin, c'est une Vincent refaite en aiguille. Ouais.
C'est une Vincent, ouais, c'est
enfin, bon.
Ouais, c'est.
C'est beau.
Voilà. Ouais, c'est sûr.
Est-ce qu'il y a du monde c'était, il y a eu 2 nocturnes.
Ouais, nocturnes jeudi et vendredi jusqu'à 22h. Là, samedi, dimanche, c'est vrai que c'est noir de monde. Il y a énormément de passages. Les 2 premiers jours, lundi et mardi, c'était plus les journées presse et les journées pro. Voilà, mais le gros de l'affluence est arrivé le vendredi, on va dire vendredi milieu d'après-midi jusqu'à maintenant.
D'accord, ouais. On finit en beauté.
Bon. On finit en beauté, ouais, c'est le sprint final.
Très bien, Luc. Bah écoute, on va te laisser parce que si t'as encore du monde sur le stand.
Ouais,
je suppose. Alors, un petit. C'est dommage, hein, ta moto n'était pas exposée sur le stand de Touratech.
Pardon, non, elle n'est pas exposée. Bah, c'est vrai que voilà, il y a énormément de belles machines toutes neuves, brillantes.
Alors c'est dommage parce que, en plus, c'est un accessoiriste donc, qui fournit donc, justement plein d'accessoires pour partir, hein, pour faire des voyages un peu comme tu fais toi, comme tu as fait.
Ouais, tout à fait, voilà. Ouais, c'est vraiment l'accessoiriste du voyageur au long cours. Voilà. Mais voilà, le marketing moderne veut qu'on monte du neuf.
Plutôt que de l'usé
pourtant qui aurait été...
Ça, je pense que c'est une erreur. Une erreur de marketing. Bon, mais tant pis, c'est pas grave. Ils font... Tant pis, c'est comme ça. Voilà.
Ouais.
Merci, Luc, d'avoir bien voulu répondre à nos questions.
Avec plaisir.
Voilà, et puis on se retrouvera d'ici...
On se retrouve bientôt,
3 semaines.
Avec plaisir.
Au revoir.
Bon
dimanche.
Bon dimanche à tout le monde. Ciao.
Chance.
Bon voilà, Nicolas, va falloir parler, il faut y venir, hein, des motos électriques. Je suis désolé.
Oui.
On va dire tout de suite que tu n'aimes pas ça. Mais pourtant, j'ai trouvé que dans l'interview, parce qu'on va passer comme une interview, j'ai trouvé que tu avais été très conciliant avec monsieur Bruno Muller, en fait.
C'est un rôle de compétition.
Tu jouais un rôle, c'était du théâtre, d'accord.
Bah, oui, bien sûr. Donc, juste pour dire que vous pouvez voir les photos sur le site de Geekinco. Donc, vous allez sur le site de Geekinco, vous tapez forum, on y était, et là, vous voyez les photos du salon. Donc j'essaie de mettre un maximum de photos, donc vous retrouverez tout ce qu'on a dit et plus sur ce forum, ça fera un bon prolongement à l'émission. Pour dire aussi qu'il y avait quand même la proximité du salon de Milan, hein, qui est le plus grand salon de moto maintenant, parce que c'est là que se fait le vrai salon. Il avait raison Bruno tout à l'heure au téléphone en parlant du salon de Milan, c'est le grand salon. Et du coup le groupe Piaggio n'était pas là, donc pas de Vespa, pas d'Aprilia, pas de Moto Guzzi, pas de Gilera, pas de Derby. Donc il y avait quand même des grands absents sur ce salon parisien. Et effectivement, comme tu disais, la Miche, depuis quelques temps maintenant, le salon de la moto accueille aussi une partie du salon de l'électroménager. Donc,
me doutais bien que ça allait mal partir, mal commencer.
Donc,
voilà, non mais attends, on est en plein dans la protection de la planète.
Bien sûr. Mais l'électricité,
bien que quand même, tu l'as poussé un petit peu dans ses retranchements, va très
alors,
loin.
On va l'écouter.
Bruno Muller, country manager, responsable marché français. Pour Zéro Motorcycle.
On va passer l'interview,
voilà.
Enfin une partie, en parler.
Voilà.
J'ai essayé, quand on est venu me proposer ce poste de country manager pour la France, je me suis dit, électrique, qu'est-ce que c'est que ces produits? J'avais déjà eu l'occasion d'essayer ces motos électriques, et je me suis rendu compte que vraiment, il y avait un agrément fantastique. Il n'y a plus de vitesse. Moi, j'ai eu l'occasion de rouler avec des tas de motos, que ce soit mon expérience chez Yamaha ou chez d'autres constructeurs comme Piaggio ou Peugeot. Et vraiment, le plaisir de rouler avec ces motos-là est bluffant. On découvre des motos avec des accélérations fantastiques. On est toujours sur le bon rapport, alors que c'est une moto automatique. La moto, avec son couple, permet d'avoir une accélération fantastique et de façon instantanée. On est à 40 à l'heure, on accélère, on démarre.
Il paraît que la Zéro, c'est la meilleure moto électrique.
Merci, c'est vous qui le dites. Pour moi, je le pense aussi. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est que d'une part, Zéro Motorcycle est le leader dans le monde de la moto électrique, mais c'est surtout un constructeur qui se consacre à 100% à l'électrique. Ce n'est pas une gamme parmi d'autres, c'est un constructeur de véhicules électriques qui va fêter ses 10 ans en 2016.
Alors, je dois vous avouer quelque chose, parce qu'on est franchement, nous, enfin, on est des vieux motards. Hein. L'émission, ça s'appelle Kick un coup, t'es tout pâle. On kick des bicylindres à l'anglaise. Hein, voilà. Et je vous avoue franchement que la moto électrique, on a du mal à accepter. Quels sont les arguments que vous allez utiliser pour nous convaincre?
Avant tout, l'essayer. Je veux dire, si vous avez la possibilité de l'essayer, si vous avez la possibilité de vous asseoir dessus, de vous rendre compte du plaisir que ça peut avoir, de ne pas faire de bruit aussi, hein, parce que c'est vrai que dans ce monde de motards, on aime faire du bruit, mais c'est aujourd'hui un fantastique agrément de pilotage sur ces motos. Je veux dire, vraiment, encore une fois, vous avez une certaine expérience dans le monde de la moto. Moi, ça fait plus de 30 ans que je suis dans le monde de la moto thermique, et je vous assure que rouler avec une moto électrique, c'est fantastique.
Moi, ça me plaît que vous me disiez de l'essayer plus pour se faire une idée, parce que d'habitude, l'argument qui est donné, c'est l'argument écologique. Et moi, l'argument écologique de la moto électrique, j'ai du mal, parce que zéro émission, d'accord, pendant qu'on roule, mais avant qu'on roule, il a bien fallu la créer, l'électricité, et les batteries, pareil, le lithium, c'est une horreur écologique. Donc, c'est pour ça que ça me plaît mieux que vous me disiez il y a un agrément de conduite.
Mais c'est tout à fait le cas. Je veux dire, je veux pas rentrer dans le débat par rapport à la production d'électricité. Aujourd'hui, l'électricité, pour un utilisateur de moto zéro, c'est 1,50€ pour faire 200 km.
Est-ce que c'est pas taxé alors que le fuel est taxé?
Oui, oui, bien sûr. Mais ce qui est important, c'est de voir aussi qu'on propose une alternative avec une moto qui est avec zéro nuisance, que ce soit au niveau environnemental ou que ce soit au niveau du type de produit. Je parle de nuisance sonore. Je veux dire, on est capable de proposer des produits où on peut rouler autrement et d'avoir cet agrément de pilotage. Moi, je veux dire, je constate que ceux qui utilisent nos motos zéro le font un peu pour la partie environnementale et beaucoup pour la partie plaisir. C'est vraiment, je veux dire, c'est comme quand vous faites du ski. Vous êtes dans une descente, vous avez le bruit du vent, les sensations du vent. Là, vous avez un vrai casque de moto, bien sûr. Vous avez des motos qui vont à plus de 160 km/h. Vous avez des motos qui ont plus de 200 km d'autonomie. Vous avez des motos qui sont capable d'accélérer comme l'une des plus performantes des motos du moment. On est à 3 secondes 3 de 0 à 100 km/h avec la SR que l'on présente ici, et vraiment un agrément mais fantastique pour des personnes qui, vous comme moi, avons roulé avec des tas d'autres motos, avec des tas d'autres plaisirs, avec des spécificités moteurs différentes. Là, on a vraiment un agrément différent, et c'est pour ça que l'essai est prédominant.
Oui, mais dès qu'on commence à rouler fort et accélérer fort, le voyant de charge descend aussi vite qu'on accélère.
Bien sûr, mais c'est comme une moto thermique. Je veux dire, vous bouffez un peu plus d'essence quand vous allez vite que quand vous allez moins vite. La seule chose,
c'est un rapport encore plus important, parce qu'en fait, dans tous les essais, c'est le gros hic de la moto électrique, c'est son autonomie. Dès qu'on commence à profiter de son moteur, l'autonomie se réduit comme une peau de chagrin, et autrement, on se retrouve en mode un petit peu à l'économie, et là, on n'a plus aucun agrément, et puis là, on a l'autonomie. On peut pas avoir les deux, quoi, pour l'instant.
Bah écoutez, sur le fond, vous avez totalement raison. Je veux dire qu'à partir du moment où vous allez commencer à attaquer avec une moto électrique, vous allez effectivement dépenser plus de potentiel puissance, de potentiel autonomie. Mais attention, je veux dire qu'on est sur des motos qui aujourd'hui ont la capacité de se recharger sur une simple prise électrique à n'importe quel moment. On ne demandera pas à un utilisateur, et on lui conseille d'ailleurs, dès qu'il en a la possibilité, de la charger, de pouvoir rentrer chez lui, de la charger, de pouvoir proposer ça. Et aujourd'hui, on propose des options comme un charge tank qui est sur la moto DSR sur ce salon de Paris, qui permet de charger à 100% en à peine 3 heures. Donc aujourd'hui, vous pouvez vous faire plaisir avec des motos, mais c'est clair que vous devez aussi réfléchir à l'autonomie et à la capacité d'utilisation. Mais vous connaissez beaucoup de motards qui font plus de 80-100 km par jour dans une utilisation normale. Je ne parle pas d'aller faire du grand tourisme. Nous ne proposons pas aujourd'hui des motos de grand tourisme. On propose des motos urbaine, extra-urbaine, pour développer un vrai plaisir de roulage.
Alors là, Nico, là, je suis étonné. Ça y est, tu es convaincu. Tu me dis.
Tu
trouves que la Zéro, c'est la plus belle. Les motos électriques.
Il se trouve que j'avais.
La plus belle ou la plus intéressante ou la plus. Je sais pas.
Il se trouve qu'il y avait un article dans votre journal la semaine d'avant. Et où des gens qui étaient. On est tous de la même génération, ça nous plaît pas spécialement ce genre de truc. Mais ils ont essayé sur un parcours effectivement périurbain, et ils ont tous trouvé ça très sympa et avec un vrai plaisir de conduite. Donc en fait, que le mec communique là-dessus, c'est vrai que c'était intéressant. En plus, c'est vrai qu'il était sympa ce gars. Il nous a bien reçus, on l'a taquiné et il a joué le jeu. Non, c'était un bon truc, mais moi je me vois pas. J'ai du mal à 17 000 euros pour un bout de plastique avec un fil. Je suis pas prêt. Je suis pas prêt.
Non, Robert, t'en penses rien, toi. Non, t'en penses rien du tout.
C'est un jouet, mais c'est pas une moto.
On va reprendre un petit peu débriefing.
On appelle ça moto, c'est ça le problème.
Là, regarde. Alors, Guy, pas de vitesse. Bon, est-ce que effectivement, pas de vitesse.
Les aussi, ils ont pas de vitesse.
Ouais, mais est-ce que c'est un plus ou un moins ou bon, mais on passe les vitesses. On aime bien justement passer les vitesses. Ça nous permet de réaccélérer ou d'avoir un nom. Enfin, il joue là-dessus. Il dit oui, pas de vitesse, c'est bien, c'est vachement bien.
Bon, on rentre dans l'utilité. Bon.
Après, il te fait pas de bruit. Je suis désolé, moi, quand j'entends une bonne Triomphe qui fait un beau bruit, ça me plaît. Je dis pas énormément de bruit, mais un beau bruit, quoi. Non. Non mais vous restez complètement.
Non mais c'est.
Moi j'ai. Non mais je fais le.
On va mettre un carton dans les rayons pour faire du
bruit.
Comme avec nos vélos.
C'était bien ça, avec
et
une
puis
carte
le bruit, pas de bruit. Le bruit, moi je trouve que pour attirer un petit peu l'automobiliste, des fois c'est
non,
pas,
mais justement,
surtout, c'est pas mal.
C'est pas mal aussi l'automobiliste qui t'entend derrière, tu vois, doubler.
Je pense que les Harley, ils les vendent grâce à leur bruit. Harley qui fait pas de bruit, ça m'étonnerait que les gens.
Mets un V-twin Harley sans bruit. Tu vas voir s'ils vont encore avant moto.
C'est sûr.
Donc c'est pas un argument de vente ça. Le bruit. Le pas de vitesse, je suis pas convaincu que c'est soit non plus.
Tu peux faire la cuisine en même temps, quoi.
après, alors il dit que ça pollue pas. Tu l'as dit dans l'interview, Nico, il faut bien faire électricité.
Ouais.
Et actuellement, en France, de toute façon, c'est le seul pays où il y a autant de centrales nucléaires. Ouais. Si on a une qui pète, on est mal. Mmh. Hein, ça peut arriver. Le risque zéro n'arrive jamais. D'abord zéro. Non. Et après, les batteries. Alors là, on ne sait pas où sont faites les batteries. Mais toi, Nico, tu sais où sont faites les batteries.
Bah oui, on a déjà parlé.
Pardon, pas faites. On récupère la matière première des batteries.
Oui, on a déjà parlé. En fait, c'est dans les Andes et au Tibet où il y a du lithium.
Et c'est des mômes de 6 ans ou 10 ans qui vont.
Oui, c'est une catastrophe écologique. Il faut énormément d'eau pour séparer le minerai. C'est un métal, en fait, le lithium, mais très très léger, qui est dans la roche. Il y en a très peu, quelques grammes. Et il faut énormément d'eau pour le séparer. Donc ça pollue énormément, en fait. Mais le problème n'est pas là. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je trouve que c'est pas une moto, c'est un véhicule de loisir électrique. Je pense pas que la solution soit ça, alternative à la moto.
Bon, on avait une deuxième partie donc d'interview, on ne pourra pas le passer parce que ça fait 5 minutes et là il est 24. Donc effectivement, après les performances, hein, il annonce 200 km d'autonomie. 200 km, mais à combien? Parce qu'effectivement.
Dès qu'on accélère, l'autonomie baisse. Donc, en fait.
Si tu as 80% du moteur, t'es plus à 200. Tu viens à 100 km d'autonomie. Hein.
On a un copain ici, Christophe, qui a un véhicule électrique. Donc,
c'est le stress permanent.
C'est le stress permanent.
Et maintenant, nous, Lillois, enfin nous ici, motards du nord de la France, maintenant tu sais que le Boulder, c'est carrément au Castellet.
Ouais, c'est notre histoire. Non, c'est pas.
T'imagines qu'on part, on part vendredi soir pour arriver le lendemain matin. C'est pas possible parce qu'il faut
semaine.
Il faut 8 heures de recharge.
Une semaine pour y aller, une semaine pour.
8 heures de recharge, tu fais à peine 200 bornes, il faut que tu recharges pendant 8 heures. Mais attends, il va falloir prendre 15 jours de vacances pour aller au Bol d'Or.
Une semaine pour descendre, une semaine
pour
remonter.
C'est impossible, c'est pas possible. Et en fait, il le dit bien dans l'interview, là, c'est urbain et périurbain.
Voilà. Donc, il dit la vérité quelque part.
Il dit la vérité quelque part. Voilà.
Donc, non, c'était intéressant.
Par contre, il dit. Et tu le dis aussi, t'es content parce que lui, il joue sur le plaisir.
Voilà.
Hein, et les autres constructeurs de motos électriques, eux, c'est tout de suite sur l'environnement. Et puis,
On essaie de nous embobiner, alors que lui.
Lui dit, vous devriez essayer, c'est vachement bien.
Et ben, on
essaiera. On va en essayer.
Ils ont essayé, ils essayent à la FFM. Il y a une équipe, les équipes de motoball sont en moto électrique.
Oui, exactement, j'ai vu.
Motoball. Motoball
aussi en moto électrique. Allez, Christine, une petite info.
Ah ben, puisque vous parliez du circuit du Castellet, comme 16, 17, 18 septembre.
Déjà, déjà la date du Castellet du Mont d'Or.
Et sinon, je vous propose donc le samedi 12 décembre une exposition moto à Prémec, organisée par l'AFM BMW Nord. Donc le rendez-vous sur la place de la mairie de Prémec, de 14h à 17h. L'entrée est gratuite. Et puis vous
donc
aurez
samedi prochain.
Samedi prochain, après-midi, en face de la mairie de Prémec.
Voilà.
C'est des copains, c'est sympa. C'est bien.
C'est l'AFM. L'AFM
une belle expo.
Donc une expo, on rappelle, samedi prochain à Prémec.
Exactement.
Toute la journée, tu as dit. Hein.
Non, l'après-midi. De 14h à
17h. On termine avec. On a encore une interview de M. Bruno Müller, mais on ne pourra pas le passer parce qu'il fait 5 minutes et puis il nous dit encore plein de choses encore sur la moto électrique. Bon, il vend bien son truc quand même. Bon, voilà quoi. On termine avec quoi, Nico? On a parlé de BMW.
On a parlé du Scrambler, oui.
Du Scrambler,
oui. Ouais. Non, on pourrait conclure sur... Effectivement, il y a deux types... c'est un petit peu ce que disait Robert en entrée, d'ailleurs. Il y a deux évolutions qu'on peut... Deux tendances. Hein, de
Tendances,
salon.
Oui.
Voilà, donc c'est de voir qu'effectivement, on revient des motos simples. Et il y a une clientèle pour ça, parce que c'est moins cher, c'est plus adapté à nos conditions de roulage. Maintenant, sur la route, hein, on ne peut plus rouler. À quoi ça sert d'avoir 300 chevaux, hein? Donc autant avoir une petite moto légère, amusante, qui soit plus agréable à rouler, qu'on puisse prendre tous les jours et qui a un bon petit look, hein, donc, et si possible années 70 parce que c'est ça qui est à la mode en ce moment. Donc ça c'est sympa et c'est vrai qu'il y a un gros créneau là-dessus. Et puis à côté de ça, il y a le Monsieur Plus qui passe partout pour faire des évolutions avec des motos de toujours plus électroniques, toujours plus de performance, toujours plus.
On n'a pas parlé de KTM, Nico.
Non, on n'a pas parlé de KTM. Ils ont fait une routière. C'est une routière à la KTM, donc c'est très très racing. C'est une belle gamme aussi, KTM. Hein. C'est vrai qu'ils ont des motos ready to race, c'est pas pour rien. C'est des motos qui sont vraiment faites pour la piste, en fait, hein, quasiment. Utilisé vraiment pour la compétition.
Là, et puis, comme disait Robert, il faut se méfier du gouvernement parce que forcément, hein, obliger les motards à porter des gants, obliger les machins, ceci.
Ça, on le fait hein, depuis toujours. Ah, ça, c'est n'importe toujours, quoi.
C'est le fait d'obliger qui est pas bien. On peut recommander. Ouais. On peut toujours recommander. Porter forcément, tu fais des trucs de pub et puis voilà, comme le gilet jaune, on le recommande. On voit bien qu'il y a des gens qui roulent avec des gilets jaunes, bien que c'est pas obligatoire. Mais casser un peu le mythe de la liberté de la moto, en fait. C'est ça qui, je pense.
Ah oui, c'est sûr. Mais oui.
Il faut faire gaffe à ça. Avec toutes les contraintes, alors ces fameuses normes Euro 4 et aussi le contrôle technique.
Ah, je pense que Euro 4, c'est un sacré problème, à mon avis. Hein. Ça va casserait pas mal de choses à terme. Parce que Euro 4, derrière, ça suit, ça va continuer. Hein.
Voilà. Oui, alors, voilà. Je te dis pas comment Euro 5. Alors.
Bah oui, non, mais quelque part, ça, on essaie de faire passer les normes moto, mais c'est pas possible. Un moteur, ça pollue. Hein, donc,
très bien, on va devoir terminer parce que là, il est presque 12h30. Voilà, merci Christine pour toutes ces infos.
Bien sûr,
pour le vol d'or. Hein. Je savais même pas, tu vois. Et voilà. Très bien, Nico, merci pour cette balade au salon hein, de la moto pour des Versailles. C'est pas encore terminé. Hein. Ça ferme ce soir à 19h. Voilà, merci Robert d'être venu aujourd'hui. Tu t'es levé tôt.
De rien, non, c'est pas levé tôt, mais pas de soucis. Hein. Moi, je donne rendez-vous à tout le monde le 16 avril à Clastres.
À Clastres.
Pour une belle journée de moto, voilà. Entre copains.
Très bien.
Et puis, avec le beau temps, comme tous les ans.
Voilà, très bien. Et puis, dernier mot, notre ami Lolo.
Eh bien, au revoir à tout le monde. Au revoir.